tous et bienvenue dans le module 2 de ce cours Microsoft Virtual Academy dans lequel on parle des différents outils qu'on met en place au fur et à mesure sur un projet classique avec comme exemple l'univers des startups. Je m'appelle Étienne Margraff et je suis accompagné de Stéphane Goudot.
Bonjour Étienne.
Bonjour. Alors, on va faire un petit résumé des épisodes précédents puisque si vous avez regardé ce qui s'est passé dans le module 1, on vous parle de quelqu'un d'incroyable qui s'appelle John et qui crée une startup qui est un réseau social pour les chats qui s'appelle Entre Chats. Et donc d'abord, ils avaient utilisé un tableau de post-it, je ne sais pas si tu te rappelles.
Ah oui, après du barbecue, mais pas tout
voilà,
à côté.
Après le barbecue, mais pas dans le barbecue non plus. Et puis ça s'est vite montré limité, puisqu'ils ont eu une équipe distribuée. Et puis pour d'autres raisons également, c'était intéressant de passer à un outil plus complet. Et donc ils utilisent Visual Studio Online. Très bon choix. Qui leur permet de gérer tous les aspects agiles de projet, l'accès à distance et ce genre de choses. Et donc John fait le point. Ça y est, ça avance bien, le projet avance correctement. Les évolutions vont super vite, parce qu'ils sont beaucoup, hein, ils sont maintenant plusieurs développeurs, un designer, qui a encore du travail, mais bon, qui est là. Et du coup, John est content, parce que ça va vite. Par contre, comme ça va très vite, et puis qu'ils ne sont pas encore tout à fait bien organisés, puis en plus, quand on développe, forcément, il y a des anomalies qui apparaissent, mais il y a des bugs qui apparaissent à chaque déploiement. Donc là, John est un petit peu moins content, ça ne lui plaît pas trop.
Tu veux dire dans la version qui est mise à disposition des chats en production?
Ah oui, c'est-à-dire que ça part en production. D'accord. Et c'est parce qu'en gros, comment ça se passe actuellement? Ils sont dans Visual Studio, c'est un site en ASP.NET. Ils sont dans Visual Studio, ils font clic droit, ils déploient directement en prod. Bah, c'est normal, quand tu démarres, tu ne te compliques pas la vie. Mais sauf qu'au bout d'un moment, quand tu es 5, 6, 7, 8 à faire ça, ça peut vite devenir un petit peu compliqué. Donc pour éviter que ça parte comme ça dans la nature sans validation, il accueille un testeur dans l'équipe. Et ce testeur va utiliser un outil pour s'organiser. Alors, pas une usine à gaz, on va rester très simple. Il a réussi à trouver quelque chose, un compromis plutôt intéressant. L'objectif de ces outils-là, en général, c'est d'organiser les tests, c'est de créer des campagnes de tests, ça s'appelle comme ça. Donc, c'est une liste de choses qu'on veut valider, une liste de scénarios. Puis ensuite, on les définit, ces différents scénarios, et on les déroule. Donc, il y a plein d'outils qui existent, Quality Center, Fitness, TestLink, etc. Et dans Visual Studio, on a un outil en web, ce qui est intéressant, puisqu'on n'a pas besoin de faire d'installation sur le PC. Donc, dans l'outil Visual Studio Online, le testeur a un onglet qui lui est dédié ici, qui s'appelle Test. Et ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est qu'il va tester la fonctionnalité qui s'appelle Ajouter un message. Donc, c'est ce qui permet, comme en tout réseau social, d'ajouter quelque chose sur sa timeline et ce genre de choses. Donc pour faire ça, on va dans l'onglet test qui est ici. Et à cet endroit-là, on a la possibilité de rajouter déjà un plan de test. Un plan de test, c'est la fameuse campagne. C'est un regroupement d'un ensemble de tests pour tester ce qu'on veut. Et donc là, ce qu'ils aiment bien faire, eux, c'est faire... chez John, ils testent par itération, par sprint. Donc on crée un plan de test qui est dédié à ce sprint-là. Donc on crée ce plan-là. On peut le sélectionner ensuite ici. Et dans ce plan, on va ajouter des scénarios. Donc première chose que je fais, j'ajoute un nouveau cas de test, qui est ce fameux scénario, qui ressemble beaucoup aux bugs et aux tâches qu'on a ajoutées précédemment, puisqu'en fait, ce système-là, sans rentrer trop dans les détails, ça s'appelle des éléments de travail, ou des work items en anglais, c'est des fiches d'informations qui varient suivant l'utilité et le type. Donc un cas de test, il y a aussi un titre, il y a aussi l'itération dans laquelle ça se trouve, mais il y a des choses en plus que je vais vous montrer.
Et donc on peut faire le lien entre ces éléments et ceux que tu as déjà précédemment définis dans le backlog,
tout
les
à fait,
tâches.
Ouais. Ouais, on va pouvoir le lier. Je vais créer le cas de test et puis on fera le lien juste après. Mais effectivement, c'est super simple à faire. L'avantage, c'est qu'en termes de reporting derrière, ça nous permettra de savoir ce qu'on a testé et ce qu'on n'a pas testé. Donc là, je vais simplement dire valider l'ajout d'un message. Et donc, la chose la plus importante, c'est évidemment le titre, mais surtout, c'est la liste des étapes. Donc je clique ici, je vais rajouter la première étape qui est lancer le site web, se connecter au site web. La seconde étape, c'est saisir un message. Et la seconde, c'est, enfin la troisième, pardon, c'est cliquer sur le bouton d'ajout. Et là, on peut indiquer qu'on a un résultat auquel on s'attend. Donc le résultat attendu, c'est le message est ajouté à la timeline. Voilà, et puis ensuite fermer le site. Donc c'est un scénario classique, pas très compliqué, et on a les différentes étapes qu'on veut réaliser. C'est pas de l'automatisation à ce niveau-là, c'est une étape qu'on a généralement après dans la vie d'un projet. On n'en parle pas ici, mais on peut évidemment automatiser ces choses-là avec Visual Studio notamment. Pour pouvoir le lier à cet élément du backlog qu'on a vu tout à l'heure, et la fonctionnalité dont tu as parlé précédemment, Stéphane, on va dans un onglet qui s'appelle Tested Backlog Item ici. Donc en cliquant sur ce bouton-là, on peut lui indiquer l'élément qui va correspondre et qu'on est en train de tester. Et pour ça, on peut choisir un titre que ça contient. Et c'était message quelque chose. Alors je vais mettre ça, find, ça fait une requête, ajouter un message. et je l'ajoute en cliquant sur OK. On voit qu'il y a un lien qui va être créé, je clique sur OK, il apparaît à cet endroit-là.
Parfait.
Et voilà. Et surtout, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si j'ouvre cet élément-là, donc l'élément qui correspond à ajouter un message, je peux voir qu'il y a des cas de test qui sont associés et que ça a été testé par un cas de test ici.
Et c'est la même logique, si je détecte une anomalie, par exemple, je pourrais faire le lien, au cours de ce test, je pourrais faire le lien avec la tâche et avec le backlog item.
Exactement.
Et remonter toute la chaîne, en fait.
Et c'est une excellente transition, puisque le testeur de John, c'est sa prochaine étape, c'est de réaliser ce test-là manuellement. Et donc pour faire ça, comment il fait? Il va simplement sélectionner le test qui l'intéresse. Il est marqué comme actif, voulant dire qu'il y a quelque chose à faire dessus. Donc il n'est pas encore testé. On clique sur Run à cet endroit-là. On pourrait lancer un client riche qu'il faudrait installer sur le PC, mais ce n'est pas obligatoire. Donc je vais cliquer sur Run Test ici. Ça va m'ouvrir une petite pop-up. Alors il faut que je fasse Always Allow ici. Je vais le refaire. Hop, je vais recliquer sur Run. C'est rien de bien méchant. Ça m'ouvre une pop-up à cet endroit-là qui correspond à la liste des étapes qui sont réalisées pour ce test. Parce que généralement, on ne se rappelle pas forcément de toutes les étapes. Je vais me mettre en écran partagé, comme ça, voilà. En général, on saisit tout un tas de cas de tests et puis on les exécute à la suite, on ne se rappelle pas forcément de tout. Donc là, au moins, l'avantage, c'est qu'on les a ici. Donc la première étape, c'est lancer le site web. Donc là, je l'avais déjà ouvert, il est là. Donc comme on peut voir, hein, c'est un site, un réseau social classique, entre chats ici, et puis on peut partager à cet endroit-là. On a une timeline avec des photos de chats, qui ont chacun à partager ces choses. Là, il y a un chat un peu plus gros que les autres.
Ouais. T'as donné une autorisation, enfin le chat là, il a accepté d'être publié sur ton site.
Ah ce chat là c'est mon chat, donc il est tout à fait autorisé à être publié ici. Et donc du coup on valide à chaque fois si ça s'est bien passé ou pas bien passé. Donc saisir un message, coucou, donc là je me fais passer pour un chat. Donc ça s'est bien passé aussi, en même temps je vois pas pourquoi ça se serait pas bien passé. Puis on clique sur publier, et là ça ne marche pas. Donc là, il constate un problème. Ça tombe bien, c'est lui qui le découvre. Ce n'est pas les utilisateurs. Déjà, c'est un progrès par rapport à ce qu'ils avaient avant. Et il va pouvoir l'indiquer. Donc, parce que maintenant, son objectif, c'est de dire aux développeurs, attention, là, il y a un problème, il faudrait le corriger. Et donc, quand on est testeur, notre métier, c'est vérifier qu'il y a un problème ou qu'il n'y a pas de problème, et surtout donner le maximum d'informations possibles aux développeurs pour qu'ils puissent savoir dans quel contexte c'est arrivé. Donc là, on va mettre quelque chose qui plaît en général aux développeurs, ça ne marche pas. Donc après, ils s'arrangeront entre eux. Et puis ensuite, je vais m'arrêter là, je vais fermer le site ou je vais laisser ouvert, peu importe. Et j'ai plusieurs possibilités à ce stade. Soit je veux simplement me rappeler que ce test a échoué, et je fais save and close et c'est terminé. Ou alors, je vais lui demander de créer un bug. Et donc ce qu'il va faire, enfin plutôt de créer une fiche de bug, le bug est déjà là, dans lequel on va simplement indiquer un titre. Donc le titre, c'est l'ajout du message ne fonctionne pas. Et si on a besoin de plus d'informations côté développement, ce qu'on peut faire, c'est que, je descends un petit peu ici, on a automatiquement, ce qu'on peut faire, c'est voir dans la description qu'on a automatiquement les étapes qui ont réussi et celles qui ont échoué potentiellement, on aurait pu attacher un fichier si on avait besoin. Petite parenthèse, si on est dans le client riche, en plus de toutes ces informations-là, on va avoir des captures d'écran qui vont se mettre automatiquement, on peut enregistrer la vidéo de l'écran et ce genre de choses. C'est déjà suffisant en web, il y a plus de choses quand on est avec le client riche.
Et le développeur, depuis son outil de développement, il peut avoir une visibilité sur cette liste de bugs directement dans l'outil de développement.
Voilà. Il le voit dans l'outil de développement, il voit à quoi c'est rattaché, ce genre de choses. Et ce qu'il va voir, je vais faire save and close, donc ce qu'il va voir, on le verra juste après ça, donc on voit ici dans l'historique là qu'on a un test qui est échoué, donc je sais que là j'ai quelque chose qui ne marche pas, je ne peux pas déployer mon site en tant que tel, sauf si j'accepte cette erreur, ce qui peut être aussi possible. Et si je retourne dans Work à cet endroit-là, et si je vais, donc déjà je vois mon bug qui apparaît dans la liste des choses à prioriser, donc là c'est, dans l'équipe de John, ils ne sont pas encore tout à fait d'accord sur comment ils font, est-ce qu'ils le mettent tout de suite dans le sprint courant, est-ce qu'ils le font dans le suivant, mais ils peuvent le prioriser s'ils veulent, à cet endroit-là. Là il est rajouté au sprint directement, ils peuvent le sortir du sprint s'ils veulent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce bug, il est associé à un cas de test, automatiquement, sans que le testeur ait eu à le faire, dans l'outil de développement, justement, on voit le bug qui arrive, on dit, c'est venu pour dans quel contexte, c'était ce cas de test-là, je peux aller dedans, mais ce cas de test, il teste quel élément du backlog, c'est celui-là, et là, on retrouve justement se ajouter un message ici. Voilà, donc ça permet de retrouver tout cet historique qui est très intéressant quand dans 6 mois, on se dit, tiens, pourquoi on a modifié cette ligne de code? Ah, c'était pour corriger ce bug qui avait été trouvé par cette personne-là à tel moment, dans tel contexte. C'est toujours intéressant, même si les choses changent vite. Voilà, donc c'est très simple pour organiser un petit peu les tests sans les faire forcément juste comme ça, un petit peu à l'arrache. Donc John fait le point, comme d'habitude. Il est content parce que les tests assurent une qualité incroyable. Donc là, c'est
fabuleux.
Fabuleux, irrévocable. Et il se sent serein, il est content, il est bien. Et du coup, il décide de déployer à chaque itération. Pour ça, il va automatiser le déploiement. Et pour automatiser le déploiement, il fait appel à un expert de cloud. Et justement, il décide d'utiliser ce qu'on ne voyait pas, enfin ce qu'on a pu voir dans l'URL, il a décidé d'utiliser Azure, Microsoft Azure. Et il appelle un expert qui connaît bien ces technos-là, et peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus.
Effectivement, bah, Étienne, je vais essayer en tout cas. Donc, Étienne vient de nous montrer comment on peut mettre en place une campagne de test manuelle fonctionnelle pour voir si le site répond à ce qu'on attend de lui. Mmh. Ça permet de détecter un premier niveau d'anomalie. Maintenant, on va pouvoir mettre en place tout un ensemble de techniques et d'outils pour garantir la qualité du code. Donc ça peut être par exemple au moment où le développeur va publier son code dans le référentiel de code. Alors on a ce qu'on appelle un source control management qui est mis en place, qui est disponible dans VSO et dans d'autres outils. Donc au moment où se fait cet archivage, on peut mettre en place ce qu'on appelle du Getty check-in par exemple, pour s'assurer du fait que quand le code est publié avant son archivage définitif, un certain nombre de tests automatiques ont été déroulés sur ce code.
Du coup, on est serein sur la qualité du code direct quasiment quand il arrive.
Voilà. Ouais. Mais bon, il y a un prérequis qu'on n'a pas encore fait là, avec Étienne, que nous n'allons pas faire d'ailleurs, qui est d'automatiser le test pour pouvoir le rejouer. Et c'est notamment une approche très utile quand on commence à mettre en place des tests de non-régression. Mmh. Pouvoir rejouer à chaque itération les mêmes tests sans avoir besoin d'avoir un testeur fonctionnel qui reclique au même endroit sur sa page. Donc, on va produire un code plus de meilleure qualité grâce à ces techniques. On va également produire un livrable, on va packager ce livrable, donc on va créer ce qu'on appelle des builds. Donc ces builds vont être générés à partir d'un serveur de build, donc qui va compiler le code pour produire ce livrable qu'on doit déployer dans le cloud, puisque c'est le cloud qui a été choisi par John et donc en l'occurrence dans Azure. Ensuite, effectivement, cette opération elle va commencer à devenir répétitive puisqu'il va y avoir plusieurs itérations. John a évoqué l'idée de partir sur une automatisation du déploiement par le biais de techniques actuelles comme par exemple l'intégration continue et le déploiement continu. On va se focaliser sur ce point-là. C'est-à-dire qu'au moment où on archivera le code, il y aura le build qui s'exécutera, donc ça c'est l'intégration continue, avec des tests qui pourront se déclencher dans la foulée. Et puis si le code a répondu à tout un ensemble d'exigences en termes de qualité, enfin, le binaire qui aura été produit, le build, sera déployé sur le site. Et là, on va quand même éviter de déployer directement sur la production.
Voilà. Ce ne sera pas en prod direct.
Voilà, on va faire une première étape. On va déployer ce build, donc ce package correspondant à l'application, sur un serveur dit de staging, donc de pré-production, pour éviter que nos amis les chats soient éventuellement perturbés par une application qui aurait pu passer tous les tests dont je parlais précédemment. Mais malgré tout, même si les tests sont passés, peut-être qu'il y a un test qu'on a oublié de faire. Et là, patatras, on se retrouve avec une meute de chats en colère.
Il ne faut surtout pas énerver les chats, parce que là, après, on ne répond plus de rien.
Donc, il y a tout un ensemble d'outils qui permettent de faire ça. Donc, Hudson, TeamCity, TFS, Visual Studio Online, pour ne citer que ces quelques outils. Alors, on va continuer dans la même logique, celle de John, hein, c'est pas la nôtre. Hein. Donc, Visual Studio Online, ça paraît être une bonne option. Donc, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Clairement, on a un site qui est hébergé, qui répond dans la plupart des cas aux attentes des chats.
Ce qui est plutôt bien.
Ça voilà,
bien.
Il s'appelle Entre Chats. Donc là, je suis sur l'ancien portail. Bon, alors, on vous montrera le nouveau portail Azure aussi, qui est très
super
intéressant. Et donc, je suis dans la partie website. Et dans la partie website, on a un tableau de bord qui, une fois que le site a été créé, nous propose différentes options. Mmh. Parmi ces options, il y en a une qui porte un nom qui, en français, est le suivant. Ajouter un nouvel emplacement de déploiement.
D'accord. Bon, alors, assez clair quand tu veux
voilà,
faire ça.
Voilà. New Deployment Slot en anglais.
D'accord.
Donc, c'est un peu ce qu'on voudrait faire, en fait. On voudrait déployer l'application dans un nouvel espace sur lequel on puisse déployer de façon automatisée pour voir un peu comment ça se passe. Et donc on a la possibilité d'abord de lui donner un nom. Donc entre chat, staging, ça te va?
Ouais, c'est pas mal.
Et on a la possibilité de cloner ou pas la configuration. Donc je vais reprendre la configuration qu'a donné Étienne, c'est-à-dire que s'il y avait une base de données en ligne, s'il y avait des paramètres spécifiques, je vais les récupérer directement en m'appuyant sur la configuration qui est définie dans entre chat. Donc, on voit en bas du portail qu'il y a une petite opération qui est en cours, donc qui en fait va dupliquer le site entre chat, qui pour l'instant était un peu seul au monde. Si je clique sur ce site, on va s'apercevoir que pour l'instant, ce site est vide. Plus exactement, il y a la page généreusement proposée par le fournisseur de cloud, en l'occurrence Microsoft, qui nous dit qu'on a bien créé un nouveau site.
Tu as dupliqué la configuration, mais pas le code.
Voilà, ça. Exactement. Donc, on va maintenant s'attacher à faire en sorte que le code qui est produit quotidiennement, heure par heure, par les développeurs,
minute par minute,
par les développeurs des sites Entrechats, viennent se publier, enfin une fois construit, une fois les tests passés, viennent automatiquement se publier sur ce site de staging.
Cool.
En tout cas, c'est notre objectif. Alors, on va aller sur notre nouveau site Entrechats Staging. Mm-hmm. Alors, vous voyez qu'on fait toujours référence au site principal. Et on va configurer le déploiement à partir d'un contrôleur de code source.
D'accord.
Donc là, on est assez, enfin Microsoft est assez œcuménique hein, en termes de support de contrôleur de code source. Donc il y a,
on pourrait prendre GitHub. Et
voilà, il y a GitHub, il y a Dropbox, il y a Bitbucket. Enfin, donc chacun ayant ses spécificités et sa communauté aussi suivant le langage qui est utilisé. Bon, VSO est très ouvert et en plus on a commencé avec VSO, donc on va continuer avec Visual Studio Online.
Bien sûr.
Donc là, c'est DXTEFR, c'est bien ça?
Tout à fait. Oui, comme Entrechats.
Et donc je vais autoriser cette connexion, suis-je habilité à le faire? J'espère. J'accepte.
Tu es l'expert Azure, donc théoriquement... Azure et Visual Studio Online.
On va s'arrêter là. Et donc, je vais faire le lien avec l'un des multiples référentiels qui est disponible sur le site sur lequel je vais déployer ce code. Et donc, il s'appelle Entrechats.
Tout à fait. Assez simple jusque-là.
Ah oui, j'ai cliqué sur un bouton. Hein. Moi, de toute façon, c'est ça le problème avec les architectes matures. Faut pas leur demander de faire trop de choses, sinon après, ça pose un souci. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait cette opération, on a tout un ensemble d'informations qui nous expliquent comment archiver du code depuis tel ou tel environnement de développement. Une chose intéressante qui aurait pu être dite également, les Source Control Manager, bon, soit on se met comme dans le cas présent sur un Visual Studio Online dans lequel le choix du mode de référentiel a été le source control TFS SC, mais on a aussi la possibilité de faire du Git hein, dans TFS et dans Visual Studio Online. Dans Visual Studio Online, avoir un mode de partage de code Git. Ça aura une légère incidence sur les choix qu'il nous proposait.
Et l'avantage, c'est que ça permet d'utiliser tout ce qu'on a vu dans le module 1, notamment, et même sur les tests, et de profiter de tout ça tout en ayant un contrôle code source Git qui s'intègre bien dans tout ça. Quoi.
Voilà, donc Git a un modèle beaucoup plus décentralisé que TFS, donc on peut plus facilement cloner un environnement. Là, on est dans du TFS. Le code qui a été produit par l'équipe de John, il est déjà disponible ici sur ce référentiel. Hein.
D'accord.
Donc on va pas le regarder dans le détail, hein. C'est une application ASP.NET MVC. Mmh. Et donc cette application ASP.NET MVC, elle est également disponible sur mon poste de travail parce que j'ai pris soin de récupérer, faire un get sur ce référentiel, récupérer tout le code en local. Donc j'ai commencé à regarder ce code, il m'a l'air, ma foi, fort bien écrit. Hein,
ouais,
il y a des bons développeurs dans l'équipe de John. j'aimerais bien qu'il soit publié. Alors je peux le modifier ou même je vais le modifier pour donner lieu en fait à cette opération d'intégration continue, donc déclencher un build automatiquement.
D'accord.
Alors, en principe, l'association que j'ai fait entre le site de staging qui a été créé et le VSO a dû créer ce qu'on appelle une build definition. On va déjà s'en assurer.
D'accord. Ce dont tu parlais tout à l'heure, qui permet de packager notamment et de faire tout un tas de choses automatiques.
Voilà. Donc là, je suis dans Visual Studio, il y a une partie qui s'appelle Team Explorer Home, dans laquelle on a effectivement ici la notion de build. Et on voit que je ne suis pas le premier à jouer.
Tout à fait, voilà. C'est le premier qui est là-haut. Là.
Voilà. Donc on voit que le site Entrechats Staging nous propose ici en continuous deployment, hein, c'est au-delà de l'intégration continue, c'est du déploiement continu, une build definition. Donc on va aller regarder un peu à quoi elle correspond après l'avoir déclenchée.
Oui.
Alors si ce n'est que, je vais quand même vous faire remarquer ici que dans les éléments déclencheurs de cette build, on est dans le mode continuous intégration. Je pourrais la déclencher manuellement, hein. je pourrais lancer le build et ça s'exécuterait. On va juste mettre en œuvre un peu l'intégration continue puisque c'était le propos de la démonstration
qui était
demandée. Donc on va juste modifier le code. Quand je regarde le site Entrechats, la version courante qui est quasiment parfaite.
Presque. Il y a surtout le design à changer.
Ouais,
tout le
design,
reste est...
Oui, mais j'ai vu que tu avais donné une tâche à Stéphane Goudot pour modifier le design.
Voilà,
je suis pas
ça.
Sûr que... Voilà, donc on voit qu'en bas, ici, il y a l'année. Alors, je me dis que ça pourrait être bien si on pouvait commencer à versionner un peu...
Potentiellement, oui.
Voilà. Donc, on va faire une toute petite modif de code pour lui faire afficher la version. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher la version. Alors, comme vous le savez sans doute, en .NET, on a la possibilité de récupérer la version... Il a été un peu trop enthousiaste. Hop. La version qui est définie dans les propriétés, par réflexion.
Bon. Ouais, comme ça, automatiquement, voilà. La version qui est mise dans les librairies directement du projet sont mises
Enfin là, en l'occurrence, je vais me contenter de l'afficher sur la première page.
C'est
ensuite,
très bien.
Ensuite, on pourrait customiser le build pour faire en sorte que dans la DLL, il y ait le numéro de version. Mais bon, là, ça nous emmènerait un peu plus loin.
Là, on change à la main et avec ton pad, ça se met à jour.
On va faire tout doucement pour commencer. Ouais.
Étape par étape, c'est le principe.
Oui. Donc, en principe, voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à une variable qui s'appelle
V. Qui s'appelle V, comme version.
Par exemple. Je vais en créer une autre qui... Alors celle-là, je vais carrément l'appeler version, puisque je vais lui demander quoi ? Je vais lui demander justement de me donner... alors, c'est major devant, sauf erreur de ma part. On va lui mettre un point. Plus... entre, c'est quoi ? C'est
mineur.
Build, non ?
Ça doit être mineur.
Il n'y a pas de entre les deux ? Oh,
oui.
Je sais plus. Bon, là, il faudrait qu'on révise. La prochaine fois, on révisera avec...
En parlant de révision, tu peux rajouter la révision, justement ?
Oui, je vais de ce pas... alors, la révision est-elle avant mineur ? Je crois que c'est mineur d'abord et révision après. Faudrait réviser. Bon. Et on va mettre mineur, et puis on mettra révision, puis on arrêtera là, parce que de toute façon, en général, il y a 4 chiffres, alors je sais pas pourquoi j'ai 5 éléments. Mais bon, ça sera dans les devoirs de vacances d'Étienne. J'avais dit, bon, on lui met la révision majeure. Voilà,
voilà, parfait.
Ça m'a l'air
plutôt
remarquable.
Ouais, ouais. C'est...
Et donc, on va aller lui renseigner cette information dans viewback.message, qui est une façon assez confortable de transporter de l'information entre
tout
le contrôleur et la page dans laquelle on veut l'afficher. Voilà. Ok, et donc on va juste aller modifier la page layout. La page qui est héritée de l'ensemble des pages, sauf faire de ma part, elle est incluse dans l'ensemble des pages. Donc
voilà.
On va juste lui demander d'afficher le viewback.message, qui devrait donc arriver en pied de page. Ça a l'air pas mal ça.
Ça a l'air bien, c'est dans footer, donc je pense que ça devrait aller dans le pied.
Voilà. Donc alors, je pourrais lancer directement l'archivage. Un bon conseil, on a toujours intérêt à tester déjà en local pour voir ce que ça donne. Donc on lance.
C'est tout à fait.
En principe, on devrait voir le superbe chat d'Étienne. C'est bien lui.
Plusieurs fois.
Mais alors ce que j'aimerais voir, c'est 1.0.0. Alors on pourrait, tant qu'on y est, maintenant juste changer la version qui doit traîner ici, non ?
Dans l'assemblée version, exactement. Voilà.
Alors par contre, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Un point.
Faut pas aller trop vite, 1.1, c'est bien. Ouais.
Un point. Bon, allons-y. Je sais pas où va atterrir moi, ça sera la surprise. ça dépend si je me suis loupé ou pas sur les histoires de révision de mineur. Mais bon, quoi qu'il en soit, nous allons maintenant archiver ce code.
C'est parti.
Donc source contrôle ici. Et je vais faire ce qu'on appelle un check-in.
Check-in, qui est l'équivalent du commit en Git.
Exactement.
Mais dans Team Foundation Server.
La petite différence de Git, il faut faire le commit et après synchroniser sur VSO. Là, ça va se faire d'un seul coup, d'un seul.
Puisqu'on est centralisé, oui.
Alors, version number, par exemple. Et donc là, il embarque mon home controller, assembly info et le layout. Et on archive. Donc l'archivage crée ce qu'on appelle un change set dans lequel il emmène tous les éléments.
Et donc principe, là, ça a lancé ta build normalement, c'est ça ?
Bah, théoriquement, oui. C'est-à-dire que si je vais cette fois-ci sur mes builds, je vois ici que j'ai un build qui a été mis sur une file d'attente.
D'accord.
Donc qui est bien le bon build, entre chats. Et donc ce build, il est sur une file d'attente, ça veut dire qu'il attend qu'on veuille bien prendre soin de lui.
D'accord.
Donc il y a un host, il y a un serveur de build qui est disponible sur VSO, qui va le prendre dès qu'il sera disponible et qui va lancer les compilations associées à la définition du build.
Ça c'est intéressant, ça veut dire que j'ai pas moi à configurer un serveur de build quelque part chez moi ou ailleurs, c'est automatiquement géré.
Voilà. De même que tu n'avais pas besoin de configurer le contrôleur de code source, tu n'as pas besoin de configurer la partie serveur de build. Donc, alors à quoi ça ressemble une build definition ? On peut aller jeter un œil. Donc déjà, est-ce qu'elle est active ou pas ? Forcément, si c'est inactive, ça ne se déclenchera
pas.
Donc le trigger, on a vu continuous intégration, mais il y a d'autres modes. Je peux le lancer en manuel, je peux le lancer régulièrement, je peux le lancer sur la base d'un schedule, je peux le lancer en mode Getty check-in. Donc comme je disais, pour m'assurer de la qualité du code. Là, j'ai une vue sur le référentiel de code source qui va être pris en compte par le serveur de build. Des paramètres par défaut. Donc là, il va se lancer sur le hosted build controller, donc celui de VSO. Je pourrais très bien, au niveau du Visual Studio, dire bah non, je ne veux pas utiliser le contrôleur de build qui est en ligne. Je veux utiliser mon propre contrôleur de build pour des raisons diverses et variées.
Si tu as un framework spécifique ou quelque chose que tu veux installer en plus.
Si ma solution de release management, c'est comment je gère mes builds, elle est déjà couplée avec un serveur de build qui serait différent. Enfin, bon, il peut y avoir des raisons. Mais là, en l'occurrence, on vise la simplicité, les outils sont directement disponibles, ce serait dommage de s'en priver. Et donc là, on a une définition en XAML du build, donc qu'on peut customiser, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'ajouter des activités, changer le cheminement du build. Et on voit les différents paramètres, les tests automatisés quand il y a lieu, et le déploiement, plus la politique de rétention, c'est-à-dire combien de temps on va garder ce truc.
Voilà. Très bien.
Donc pendant ce temps-là, si je puis dire, mon build, est-ce qu'il a commencé? Tout doucement.
Il est en cours d'exécution.
Voilà, il est en cours d'exécution. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe côté serveur.
Très bien.
Donc côté serveur, bon déjà, si je reviens sur le référentiel de code source, en principe, je m'attends à voir des choses dans History. On voit ma photo déjà.
On voit que j'ai beaucoup travaillé qu'une fois.
Ah, moi, je viens d'arriver sur le projet, donc c'est normal.
Oui, mais on le voit.
Et on verra bientôt toutes les évolutions que j'aurai apportées. D'accord. Du point de vue de la charte graphique et du design.
Bien sûr, pour
le
design, mais tout à fait, c'est vrai.
Donc ça c'est la partie exploration du code source, il y a la notion de change set dont je parlais, la notion de shelf set aussi, on peut mettre du code sur étagère, c'est-à-dire qu'on veut l'archiver, on part, voilà c'est le 23 décembre, voire le 24, on veut rentrer, retrouver son sapin de Noël et la famille qui est autour. Et donc on va archiver son code sans avoir eu le temps de le tester complètement, on va le mettre dans un shelf set. Okay. Et puis en fonction de la qualité du code, on décidera ou non de le publier de façon plus définitive dans un chunk test.
Comme ça, c'est sauvegardé sur le serveur, mais pas partagé encore avec tout le monde. C'est pour soi, au cas où ton PC il crache pendant les vacances.
Par exemple, parlons pas de malheur.
Parlons pas de malheur.
Voilà. Donc, allons voir un peu ce qui se passe côté build. Ah ben là, je vois que mon build, entre-temps,
il
s'est terminé.
Parfait. C'était pas si long que ça, en fait, hein, quelques minutes.
Donc on peut aller, on va pouvoir le voir à différents niveaux. Mais là, j'ai le résumé. Bon, visiblement, ça s'est bien passé. Mais j'en attendais pas moins d'un code produit par l'équipe de John. Hein. Et donc, on peut voir le détail, ce qui a été fait par cet agent de build, les différentes opérations, les scripts qui ont pu être lancés. S'il y a eu lieu de mettre en place des tests et le déploiement qui a pu réussir ou pas. Et donc en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé. On a des éléments qui permettent d'affiner le diagnostic. Mm-hmm. Là, c'est surtout utile quand il y a un souci. Et donc, là, il n'y a pas eu de souci. On a la même vue maintenant côté Visual Studio.
D'accord. Donc dans l'étude du développeur directement, si on utilise Visual Studio, après on a toujours accès au web.
Alors encore une fois, effectivement, VS Online, c'est un outil qui est très ouvert, qui ne nécessite pas forcément une interaction avec Visual Studio. Surtout si on utilise le mode Git dont on parlait précédemment.
Tout à fait.
Donc voilà, mon website était déployé sur Entrechat Staging. C'était bien celui sur lequel j'espérais qu'il soit déployé. Alors maintenant, c'est une question là, que je me pose. Est-ce que effectivement le site a été modifié? Donc souvent, lorsque je pose une question à Étienne, je lui demande de s'engager, de prendre.
Je ne m'engagerai pas, mais je te propose d'aller vérifier.
Donc il y a quelque chose, en tout cas, ça a été déployé. Voilà, il y a un truc qui a été déployé.
Et il y a une petite coche verte.
En principe, maintenant, voilà, je suis sur le site de staging et j'ai bien une version qui a été déployée avec... j'ai inversé les numéros, tu vois.
Ah oui, bon, c'est pas grave.
Bon, on va décaler...
une correction pour la fois d'après.
Voilà, donc tu peux créer...
je vais rajouter un élément dans le backlog.
Voilà, donc ça, c'est une première étape. Déjà, on a mis en place un mécanisme qui nous permet de tester le comportement du site lorsqu'on produit une nouvelle version. Mm-hmm. Et de façon automatisée, donc on va déployer sur un site qui va pouvoir être testé avec la campagne de test, par exemple, que tu as définie.
D'accord. Et on peut peut-être passer ça en prod. Je ne sais pas comment ça.
Ah oui, que ça se passe. Excellente remarque. Donc bon, on en est content. Alors au bémol du numéro de la version qui ne répond pas tout à fait à l'ordre dans lequel j'avais défini les éléments. Donc on peut revenir effectivement sur Entrechat et on peut échanger ici. C'est-à-dire qu'on peut dire que la version de staging devient la version de prod et inversement.
Alors pourquoi on échange? C'est pas une migration? Comment ça se passe?
Ah non, là en fait ce qui va se passer, c'est que les utilisateurs qui sont face, enfin nos amis les chats, qui sont face au site Entrechat, vont avoir la nouvelle version qui va être mise à leur disposition dès lors qu'ils seront en train d'accéder au site.
D'accord.
Voilà, donc s'il y a un rafraîchissement, s'il était déjà chargé, forcément, ils auront la version qui affiche le numéro de...
D'accord. Et comme on parle d'échange, si jamais ça ne marche pas, on peut rééchanger dans l'autre sens?
Bien sûr. Ah, c'est super. Tout l'intérêt de la démarche, c'est d'avoir en fait la possibilité de faire marche arrière si le téléphone sonne en disant avec un chat en colère parce que le site ne répond plus à ses attentes alors qu'il le faisait précédemment. Donc là, on lui indique quelle est la source et quelle est la destination. Alors, on voit qu'il n'y a qu'un seul élément dans la combo parce que j'en ai créé qu'un, mais rien n'empêcherait d'avoir plusieurs slots de déploiement, plusieurs emplacements. Et là, l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir non seulement valider des nouvelles versions, mais peut-être commencer à expérimenter un peu sur un pourcentage réduit de nos amis les chats, tester la nouvelle version, donc avoir un slot nouvelle feature par exemple.
D'accord.
Et donc mettre en ligne, en production, enfin accessible à travers Internet, avec un routage basé sur, sur un pourcentage de chats connectés, donner la visibilité sur telle ou telle version du site.
Ce qui donc, permet de faire de l'A-B testing et ce genre de choses-là,
exactement,
par exemple.
Exactement. Cool. Mais là, donc, là, en l'occurrence, c'était plutôt une problématique de je déploie, je teste sur, sur un site, et si ça répond comme je le souhaite, eh bien, je bascule de la source vers la destination. Et donc là, je devrais mettre le staging sur, sur la prod, et inversement, ce qui me donnera la possibilité de revenir à posteriori. Donc si j'enlève entre staging, je devrais... il était achevé ou pas ?
Je crois qu'il était encore en train de... Non, ça a l'air bon, là.
Voilà. Et donc, j'arrive sur la version chat. Et donc, il y a
qui
bien...
a bien été mis, voilà. Super, c'est super simple.
Ah,
on
oui,
met en prod,
extrêmement simple.
Le testeur, du coup, il teste sur le staging. S'il dit, c'est on go, on fait juste un switch, un clic et c'est terminé.
Exactement.
Super. Très bien, très bien. Merci Stéphane pour ces explications. On arrive à la fin de ce module 2. À bientôt pour le prochain module.
À bientôt.